Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission des zèbres dans l'église. Et aujourd'hui, on va aller voir un zèbre qui se balade dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, je suis avec Ingrid. Bonjour Ingrid.
Bonjour ou rebonjour.
Alors, Ingrid, nos auditeurs te connaissent déjà, ils connaissent ton témoignage, ils t'ont déjà entendu une ou deux fois sur cette plateforme. Et aujourd'hui, on voulait revenir ensemble sur cette partie scolaire de ta vie, cette partie où tu as dû apprendre à apprendre et développer des méthodes d'apprentissage qui t'étaient propres et qui correspondaient à qui t'étais. Alors on va le voir, hein, on n'est pas tous pareils, donc tes méthodes à toi, elles sont personnelles, elles sont pas forcément adaptées à tous, mais ça peut être intéressant de revenir sur ça. Par exemple, comment la toute petite Ingrid apprenait ses leçons quand tu étais toute petite?
Quand j'étais petite, on va dire que j'apprenais les leçons à la façon de ma maman. Parce que ma maman est institutrice de formation. Donc je pense aussi que ça m'a aidée déjà à développer, on va dire, une certaine rigueur dans l'apprentissage. Et ma maman est quelqu'un de très, très organisé. Donc je n'ai pas de souvenir précis de comment j'apprenais mes leçons, mais je me souviens de poésies qu'elle me faisait réciter. Vers par vers, plusieurs fois. Je me souviens de parfois chanter mes poésies pour les retenir. Là, j'ai un souvenir d'une fable de Jean de La Fontaine que j'apprenais debout, en train de bouger dans tous les sens. Et je pense que ça passait pas mal par la discipline. Avec ma maman, ça a été toujours quelque chose d'assez discipliné en termes d'école et de scolaire. Donc voilà, j'avais un temps pour faire mes devoirs qui était dédié. Ma maman et mon papa aussi étaient là pour m'aider. Et je pense que c'est que quand j'ai commencé à l'école à la maison, donc à 11 ans, 10-11 ans, que je suis arrivée à l'école à la maison, donc entrée de collège pour moi, que j'ai vraiment commencé à développer mes méthodes à moi d'apprentissage.
Mais oui, j'allais te dire, la rigueur et ça fonctionne un moment. Est-ce que ça fonctionne toute la vie pour apprendre des choses?
Alors, je pense que la rigueur fonctionne toute la vie pour apprendre des choses, mais après, je dirais que cette rigueur doit être adaptée au profil de chacun et spécifique à chacun. Dans le sens où ce que j'entends par rigueur, pour moi, c'est vraiment cette discipline de répétition, refaire, revenir dessus, ne pas se décourager. J'entends par là plutôt de la persévérance. Je parle pas de perfection. Pendant un temps, j'étais dans la perfection, mais aujourd'hui, je définirais plus la rigueur comme arriver à quelque chose de parfait ou quelque chose de dur, mais plutôt cette discipline et cette persévérance qui fait que plein de petits pas et de petites répétitions ont un résultat qui peut être vraiment très grand. Donc oui, je pense que la rigueur est nécessaire et je pense que même si quand j'étais ado, je détestais avoir ma mère sur le dos qui était stricte avec moi, je pense aujourd'hui que ça m'a appris en fait à justement aller au bout des choses, même si c'était compliqué, même si c'était pas facile et même si j'avais pas envie. Et pour moi, du coup, la rigueur a beaucoup plus de résultats que la motivation. Parce que quand on est
D'accord.
plus motivé, c'est la discipline qu'on a qui fait qu'en fait, on continue de persévérer.
Tu veux dire aux parents qui nous écoutent que c'est important, malgré le fait que ça fait râler nos ados, de garder une certaine discipline par rapport aux devoirs, etc.
Je pense que oui, mais encore une fois, une discipline qui correspond au profil de l'enfant. Je vais prendre un exemple avec une de mes sœurs. Ma sœur qui est juste après moi, on est deux profils d'apprentissage très très différents. Elle a vraiment un profil très artistique, beaucoup plus que moi. On est toutes les deux créatives, mais elle est vraiment le profil d'artiste. Et elle apprenait ses leçons, je me souviens, en faisant de la peinture, en recousant ses vêtements, en dessinant. Et elle apprenait en général au milieu de la nuit. Moi, j'étais pas du tout un oiseau de la nuit. Moi, j'apprenais le mieux tôt le matin. Fallait que j'écrive, j'avais énormément de fiches mémo, beaucoup de couleurs, des codes couleurs, des codes de surlignage, enfin voilà, j'avais tout un système. et en étant assise à la bibliothèque. Moi, la bibliothèque, c'est le meilleur endroit où je suis pour apprendre. Tout le monde est dans un cadre studieux, c'est calme, je suis dans un tas de concentration super intense. C'est là où je performe le mieux, c'est la bibliothèque. Ma maman, pour elle, la méthode d'apprentissage la plus performante, c'était celle que j'utilisais parce que c'est peut-être la plus standard ou celle qui fait le plus sérieux. Ma petite sœur, elle a très bien réussi ses études. Alors, ça a été plus compliqué pour elle, peut-être émotionnellement, parce que c'était compliqué. Enfin, pour elle, elle se mettait énormément de pression. Il y avait une recherche de perfection qu'on demande aussi souvent aux artistes dans le milieu de l'art. Moi, je n'ai pas eu cette pression-là, on va dire. Cette pression extérieure. Donc, on n'a pas le même vécu en termes d'études, mais je veux dire, elle a tout autant réussi que moi et pourtant, elle ne travaille pas et elle étudie pas du tout de la même façon que moi. Et d'ailleurs, quand on était ados, c'était assez compliqué parce qu'on partageait une chambre. On partageait notre chambre. Moi, j'étais du matin, couche tôt, lève tôt et très organisée, tout est à sa place, tout bien rangé. Ma sœur, c'était couche tard, elle a ses inspirations. Je me souviens quand elle était à la fac en études d'art. Elle rentrait, elle avait des projets à faire, aucune inspiration. Et puis, à 23 h, on voyait la lumière s'allumer dans sa chambre. Et là, elle bossait toute la nuit et son inspiration et son meilleur moyen d'apprendre, en fait, c'était pendant la nuit, ma sœur. Donc voilà. Après, ma maman, elle a quand même été rigoureuse avec toutes les deux, dans le sens où elle tenait à ce qu'on donne toujours le meilleur de nous-mêmes et que quand fallait nous donner un coup de pied au derrière, elle nous donnait et qu'elle a été quand même assez ferme sur certaines attentes qu'elle avait. En termes d'apprentissage, voilà.
Et je reviens sur ce que tu as dit, toi, ce qui te permet d'être bien dans un temps d'apprentissage, c'est d'être à la bibliothèque. Ça veut dire que tu ne fais pas partie de ces personnes qui peuvent avoir tout mélangé au même endroit, être sur leur lit avec le livre que je suis en train de commencer en ce moment, un jeu de cartes qui est ouvert ou quelque chose en fond qui fait du bruit. Tu fais pas partie de ces personnes-là. Toi, tu as besoin d'un cadre spécifique.
Alors, je te dirais que ça dépend de ce que j'ai besoin d'apprendre et de l'objectif de mon apprentissage. Si ce que j'ai besoin d'apprendre nécessite... En fait, je suis quelqu'un qui me laisse assez facilement distraire parce que je suis très curieuse. Et donc, tout ce que je vois éveille ma curiosité. Et donc, c'est compliqué pour moi si je ne suis pas dans un cadre, quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose vraiment de façon méthodique. Et on va dire, par exemple, apprendre une leçon. Je ne pourrais pas le faire dans mon lit avec un jeu de cartes, etc. Parce que tout simplement, ça me demande une énergie, ça me demande un effort qui nécessite toute ma concentration et du coup, je peux pas m'en occuper.
Je suis revenu
Voilà.
dessus parce que justement, ça me, je c'était revenir dessus, c'était un petit peu donner un petit conseil à certains parents qui sont pas forcément conscients que pour que leurs enfants puissent avoir une bonne disposition à apprendre, le cadre peut avoir son importance. Il y a des enfants qui sont capables de se faire une bulle au milieu de tout et d'autres qui ont besoin d'avoir un lieu qui les dispose.
Alors, après, tu parles de bulles au milieu de... Enfin, tu parles de... qui peuvent apprendre au milieu de tout. En fait, je pense qu'on peut se créer sa bulle au milieu de tout. Enfin, moi, je veux dire, pendant des années, j'étais en école à la maison. Je viens d'une famille nombreuse, donc on était 6 enfants, plein de niveaux. Enfin, je suis l'aînée, donc j'avais des petites sœurs. Il y avait souvent du bruit, des cris dans la maison, mais j'avais ma bulle. Donc, ma bulle, c'était dans ma chambre. J'avais mes petits réflexes, mes petits rituels et... À partir du moment où mes rituels se mettaient en action, ma bulle se créait et il pouvait y avoir autant de bruit et de chaos autour de moi qu'on voulait, ma bulle était là. Donc oui, j'arrive à recréer cette bulle. Ça m'arrive par exemple régulièrement d'aller apprendre ou d'aller travailler dans un café. J'aime beaucoup ça, mais je sais que ça va être pour des apprentissages peut-être plus créatifs. Où j'ai pas besoin de silence et de calme. Et en général, d'ailleurs, je suis beaucoup plus créative dans un café, dans un endroit où il y a du bruit, où il y a de l'énergie. C'est ça qui suscite ma créativité et qui fait que tout ce qui est en lien avec la création, là, je vais apprendre mieux, je vais retenir mieux, je vais être plus efficace. En fait, j'arrive à identifier chez moi différents types d'apprentissage. Et en fonction de ces types d'apprentissage, j'arrive à définir le cadre, la bulle qu'il me faut.
Si je me souviens bien de notre long entretien où tu racontes un peu plus ton témoignage, quand tu étais à la fac, tu avais eu tes fiches de révision étaient pas mal convoitées. Est-ce que c'était juste parce qu'elles avaient le mérite d'exister ou est-ce qu'elles avaient quelque chose de particulier?
Alors, je pense que pour certaines personnes, elles avaient le mérite d'exister puisqu'ils ne mettaient pas un pied en cours, donc ils n'en avaient pas. Pour moi, il y avait quelque chose qui existait. Après, c'est juste que j'avoue que je suis fière en fait de mes fiches, de mes notes de cours. Je les ai toutes gardées d'ailleurs parce qu'elles sont vraiment très belles. J'avais en fait un système. Moi, j'apprends par l'écriture, en fait, par le visuel. Donc, il y a différents types de profils d'apprentissage, hein. Il y a des personnes qui sont plutôt visuelles, donc comme moi, d'autres qui sont auditives, qui ont besoin d'écouter. Donc, moi, j'avais des copains en cours qui enregistraient le cours, qui prenaient aucune note et qui ensuite se le refaisaient passer comme des podcasts plusieurs fois dans l'année. C'est comme ça qu'ils apprenaient. Et il y a d'autres personnes qui sont plus kinesthésiques, je ne sais plus le terme exact, et qui ont besoin de bouger pour apprendre ou de mettre en scène. C'est plus dans le mouvement. Donc, j'avais une colocataire, voilà, elle se créait des personnages avec ses fiches de cours et je l'entendais jouer ses propres pièces de théâtre. Elle transformait ses cours en chansons, elle donnait des voix à telle partie de son cours et voilà, elle apprenait comme ça. C'était marrant, c'est pas du tout ce qui me convient moi, mais ça fonctionnait. Moi, je suis visuelle et du coup, en fait, mes cours, comment je les apprenais? En fait, pour moi, 50% du travail d'apprentissage était fait par juste le fait d'être présente en cours. Donc c'est aussi pour ça que j'étais réputée pour être une étudiante très sérieuse et studieuse, parce que je ne loupais pas mes cours. Parce qu'en fait, je me suis rendue compte que juste le fait d'écrire et de prendre les notes sur le vif, j'avais déjà 50% de mon cours qui était retenu. Ensuite, ma deuxième étape, c'était de recopier mes cours au propre. Donc je passais des heures. En fait, j'avais en licence, j'avais 25 heures de cours et je passais à peu près 25 heures à côté aussi à étudier, à apprendre. Et quand je dis étudier, apprendre, c'est principalement réécrire mes cours. Donc, je réécrivais mes cours pour qu'ils soient nickels. Et en fait, cette étape de la réécriture, ça a renforcé mon apprentissage. Je pense que j'étais à 70% de rétention d'informations. Et ce qui venait ajouter à cette rétention d'informations, c'est que j'avais un code couleur très, très précis. Donc, mes titres étaient surlignés d'une certaine façon. Le vocabulaire clé avait une autre couleur. Les mots-clés étaient encadrés avec telle façon. Quand je suis rentrée en master de droit, voilà, je mixais les codes couleurs. Donc, par exemple, tout ce qui était droit public, ça pouvait être en vert. Les mots-clés, ils étaient soulignés en rouge. Puis j'avais des systèmes d'encadrement en version carrée, version ronde, pointillée, etc. Et en fait, après ça, pour les révisions, donc ça, je faisais ça systématiquement dans ma semaine de cours. Donc, j'allais en cours, je prenais mes notes, mes notes devaient être réécrites dans la même semaine. Comme ça, je prenais pas de retard et j'accumulais pas une masse de travail qui ensuite est vite ingérable quand tu es à la fac avec tous les cours et toutes les prises de notes que tu prends. Et ensuite, j'avais une autre étape, c'était que régulièrement, chaque fin de semaine en général, ou toutes les 2 semaines, je reprenais mes cours et je les transformais en fiches mémo. Donc les fiches mémo, c'est les fiches cartonnées, là, je sais pas quelle est la taille exactement, les fiches blister, je crois que ça s'appelle. Et là, pareil, je ne mettais que les infos essentielles et j'avais encore une fois un code couleur. Et ça, cette technique, elle est venue de ma maman qui l'utilisait beaucoup quand elle était lycéenne et étudiante et qui m'a appris à les faire dès le collège, en fait. Donc, dès le collège, j'ai toujours fait des fiches mémo. Et ma maman aussi utilise pas mal de codes couleurs. Donc ça, les codes couleurs, ça vient aussi de ma maman, même si après, moi, je l'ai bien étoffé et où j'avais, je sais pas, je pense que j'avais une dizaine... 5-6 couleurs de base et puis mélangées avec des soulignements spécifiques, etc. Donc, je pense que j'avais à peu près entre 15 et 20 codes différents selon les cours et le besoin que j'avais pour chaque cours. Et ensuite, avant les examens, donc en fait, ça, cette phase-là, je le faisais dans le flux quotidien hebdomadaire de mes cours à la fac. Quelques temps avant les examens, je me faisais des fiches mémo de mes fiches mémo. C'est-à-dire que je prenais toujours ces fiches Bristol, voilà, ça s'appelle des fiches Bristol, mais ils ont un format encore plus petit qui ressemble un peu comme des cartes à jouer. C'est le format-là. Et du coup, là-dessus, je notais que les mots-clés de ma fiche mémo. Et en fait, ces cartes-là, je les avais dans mon sac en permanence. Et moi, je prenais le train tous les matins et tous les soirs, en fait, pour aller à la fac. Et du coup, ben, c'était boule quies ou casque sur les oreilles. Et je me passais ces fiches, ces mini-fiches mémo où il n'y avait que les mots-clés. Après, ces fiches mémo, en fonction des matières, elles étaient présentées différemment. Ma maman, je me souviens très petite, par exemple, elle nous faisait apprendre chaque semaine un verset de la Bible. Et donc, on l'écrivait dans un carnet. On avait un carnet style annuaire où, voilà, par ordre alphabétique, on pouvait retrouver les versets, etc. Donc, l'écriture, ça a toujours bien fonctionné pour moi. Et puis, rapidement aussi, ma maman, elle s'est mise pendant mes années de collège, elle a commencé à découvrir la méthode Montessori pour aider certaines de mes sœurs qui avaient plus de difficultés d'apprentissage que moi. Et du coup, dans la méthode Montessori, il y a pas mal de flashcards. Alors, les flashcards, ce sont des cartes où il va y avoir d'un côté, par exemple, une image et de l'autre côté, le mot-clé. Et donc, moi, je me suis rapidement emparée de ce système de flashcards. Et donc, par exemple, pour l'anglais, parce que j'ai fait des études en langue étrangère, anglais-japonais. Donc, en fait, je me créais mes propres flashcards pour apprendre mon vocabulaire et passer par le jeu pour apprendre. En fait, c'est quelque chose que j'ai rapidement développé. Donc, par exemple, le vocabulaire, donc j'utilisais ces fameuses flashcards, mais je me créais aussi des memory games de vocabulaire. Ou plus tard, pour le droit, pareil, je faisais des memory games d'articles de loi à retenir. Donc, en fait, j'avais, par exemple, sur une carte, le mot en français, sur l'autre carte, le mot en anglais, tout caché, face cachée sur une table, et il fallait que je retrouve qu'est-ce qui allait avec l'autre, ainsi de suite. Et pour mes articles de droit, pareil, j'avais soit le code de l'article, et de l'autre côté, la définition, etc., ou un terme juridique, le code de l'article, il fallait que je les remette ensemble, et ensuite je pouvais vérifier à l'aide de mon cours si c'était fonctionnel ou pas. En master 1, j'ai franchi une autre étape où là je suis allée carrément plus loin, mais parce que j'étais vraiment en galère, il y avait trop de choses à apprendre, il fallait que j'apprenne en mode plus rapide, on va dire. Donc là, par exemple, pour le japonais, c'est une langue extrêmement complexe à apprendre car il y a je ne sais pas combien de caractères. Donc en fait, là, j'étais arrivée à créer des caractères que je plastifiais, que je collais sur la paroi de la douche, sur le pot de Nutella. Tout était bon pour voir mes caractères de japonais partout, tout le temps. J'en avais même fini par en mettre au plafond pour qu'en m'endormant, en me réveillant, je vois des caractères japonais au plafond. Et en fait, je passais énormément de temps à préparer tout ça, mais le fait de préparer ça, en fait, j'apprenais en même temps. Donc pour moi, ce n'était pas une perte de temps. Et je pense que j'ai même encore des photos de ma chambre d'étudiante à Aix, mais mes murs étaient tapissés, je transformais aussi en mind map, je faisais pas mal de mind map pour réussir à lier les différents sujets, parce qu'en fait, en droit, il y a énormément de notions. J'ai fait du droit international et européen, et notamment du droit de la guerre, donc les conventions de Genève, tout ce qui est humanitaire, le droit du développement, etc. Et il y a énormément en fait de choses qui se recoupent. Donc j'ai beaucoup utilisé le principe des mind maps pour ça. Donc les mind maps, l'idée c'est d'avoir un sujet central, le sujet de base, et ensuite de créer des connexions en tirant des traits, reliant un peu comme une toile d'araignée, où on va relier des... Alors je mettais mes mots-clés, et je les reliais entre eux, ben tiens, tel article, il s'applique aussi à tel autre concept qui est là, à gauche sur ma feuille, etc. Et donc ensuite, juste en une capture visuelle sur une feuille A4 ou A3, j'avais en fait tout mon cours de droit international et pas juste droit international, je sais pas, Convention de Genève. Enfin, j'avais pas juste les sous-catégories de mon cours, j'avais vraiment tout ce qui concernait le droit international sous les yeux. Et ça, si on le mixe encore plus avec des codes couleurs, je vous dis, c'est un système génial. C'est hyper kiffant. Moi, une satisfaction intense quand je vois ça. Je dis souvent pour rigoler que j'ai un orgasme intellectuel quand je fais ça. C'est genre le summum du... Vraiment, moi, ça me fait trop plaisir quand je fais des trucs comme ça. Donc, je suis peut-être un peu barge, mais c'est un côté barge de moi que j'aime beaucoup et qui est très utile dans la vie. Je suis hyper organisée, mais pour tout, pareil, pour mes papiers administratifs, j'ai repris des techniques d'apprentissage en fait pour trier. Il y a mon papy l'été dernier qui nous a fait tout un live sur le fait qu'il fallait qu'on soit prêt à mourir et pas laisser nos papiers traîner parce que sinon ça emmerde les gens qui doivent gérer les enterrements. Et moi, je lui disais pour rigoler, t'inquiète pas, papy, moi c'est tellement bien rangé que Mon enterrement, il va s'organiser tout seul, en fait. Donc voilà, je suis vraiment là-dessus. En fait, pour moi, l'organisation, c'est vraiment clé. Donc j'avais aussi des systèmes de boîtes où mes fiches, mes mots étaient triés par thème, par ordre alphabétique. Enfin, le fait d'être organisé m'a vraiment aidé à apprendre. Et pour moi, ça a été mon gros, gros point fort, c'était d'être organisé. Organisée, minutieuse et surtout d'avoir trouvé en fait ce qui me convenait. Et je pense que l'important, c'est vraiment de tester plein de choses. On trouve plein d'outils sur Internet. Il y a même des livres chrétiens, je crois, de... J'en avais lu un hein, quand j'étais au collège, je crois, de Alfred Kuhn, qui parle de l'apprentissage. Je me souviens avoir lu un livre chrétien où il parle de plein de techniques et c'est un auteur chrétien. Je vais essayer de retrouver le titre du bouquin.
Pendant que tu
Mais,
cherches.
ouais.
Pendant que tu cherches, moi, si je pouvais faire un premier résumé avant d'attaquer la suite de notre discussion, c'est que, à t'entendre, je me rappelle dans ton témoignage que tu as, en quelques années, passé énormément de diplômes. Et
Oui.
finalement, ce n'est pas juste parce que tu étais à haut potentiel. Il ne suffit pas d'être haut potentiel pour réussir dans les études. Et il faut transformer ce potentiel en réalisation. Et c'est grâce à la rigueur que tu as imposé ta maman et en même temps grâce à des méthodes d'apprentissage que tu as développées et en même temps tu as développé une méthode d'apprentissage mais un goût pour l'apprentissage qui fait que tu as réussi dans les études que tu as souhaité faire. Ce qui voilà, le petit résumé, c'est il suffit pas d'être à haut potentiel pour réussir, il faut encore s'en donner les moyens.
Oui, alors, certes, j'avais des facilités, parce que je retiens vite, rapidement, mais je pense pas que mon haut potentiel. Bon, pour donner un exemple simple, en fait, si je compare quand j'ai passé mon bac et quand j'ai passé mes diplômes, j'ai eu beau être au potentiel, j'ai eu beau avoir étudié, j'avais pas un système d'apprentissage aussi développé qu'à la fac quand j'étais lycéenne. Et mon bac, je l'ai eu. Alors j'ai eu une mention, mais c'est la mention la plus basse. Hein. J'ai eu une mention assez bien. J'ai certaines de mes sœurs qui ont des meilleures mentions que moi et qui sont pas au potentiel. Donc c'est voilà, j'ai eu mon bac, mais sans, j'étais pas majeure de. Major de mon district ou autre, j'ai eu mon bac, j'ai envie de dire, ras des pâquerettes. Hein. J'ai fait un bac littéraire, je me souviens qu'en philo, j'ai eu 10. Donc, enfin, voilà, c'était vraiment pas. C'est mon haut potentiel, on va dire, m'a aidé à avoir mon bac sans forcément fournir un effort hyper intense, mais c'est pas ça qui m'a aidé à performer. Alors qu'à la fac, ben, notamment en Master 1 et en Master 2, j'avais vraiment des lacunes sur certains sujets parce qu'en fait, j'ai fait une licence en langue étrangère, donc langue étrangère appliquée, anglais-japonais, avec une spécialité relations internationales. Sauf qu'en stage de fin de licence, j'ai fait un stage dans le domaine de l'humanitaire et en fait, ça m'a archi plu. Et du coup, j'ai décidé de bifurquer. Donc, j'ai fait un premier Master 1, toujours en LEA. Parce que c'était la bifurcation la plus simple, mais avec une spécialité management de projets culturels et humanitaires où il y avait énormément de finances internationales. Moi et les maths, c'est pas une grande histoire d'amour, c'est la matière où je n'ai jamais performé. À partir du moment où on m'a mis des lettres dans mes mathématiques, mon esprit littéraire a pas capté ce qui se passait et ça a été une dégringolade sans fin. C'est vraiment des matières où je n'ai. D'ailleurs, c'est la seule matière où j'ai dû avoir des cours particuliers pour réussir à avoir plus que 10 à mon bac. Parce qu'on avait beau m'expliquer tout ce qu'on voulait. Moi, j'ai vraiment le jour où j'ai vu des A, des B, des X, mon cerveau de littéraire n'a pas compris ce qui se passait. Et ça a été la fin pour moi de toutes les matières purement scientifiques. Et quand je dis purement scientifiques, purement mathématiques plutôt. Donc, que ce soit la physique, chimie ou les maths, j'étais nulle. C'est pas mon talent. Et par exemple, ma petite sœur dont je parlais tout à l'heure, qui a un côté artiste, elle, sa passion pour se relaxer quand on était adolescent, c'était de faire des maths. Donc voilà. pas du tout le même profil. Mais en Master 1, du coup, j'avais ce cours de finance internationale qui était assez imposant en termes de coef. Et en fait, ben, cata, parce qu'en finance internationale, il y a plein de formules, il y a plein de calculs, et il y a surtout beaucoup de lettres et de chiffres qui se mélangent. Et donc là, moi, grosse frustration, je crois qu'on a eu un premier examen qui, heureusement, je crois, ne comptait pas dans la note finale. Mais bref, je me suis ramassée, quoi. C'était vraiment pas ça. Et en fait, là, j'ai mixé deux approches. La première approche, c'est que je suis une compétitrice et puis j'avais très bien retenu le verset qui dit qu'on est appelé à être la tête et pas la queue. Et donc pour moi, c'était hors de question que je sois la queue de la classe. J'ai décidé, du coup, j'avais pris un ou deux versets, je sais plus, que je m'étais noté, mais je sais plus les versets exacts, mais en gros, c'est des versets qui disent qu'il y avait le verset, je crois, que rien n'est impossible à celui qui croit, ou que tout, enfin, ou l'autre verset, l'autre qui veut dire la même chose, tout est possible à celui qui croit, enfin, voilà l'idée là. Et le verset que si on n'a pas de sagesse, on peut en demander à Dieu, et que Dieu, dans sa grâce, nous en donnera avec. Ah bon, en abondance. Donc, du coup, j'avais ces deux versets-là, et en fait, j'ai décidé quelque chose que je ne fais jamais, mais que maintenant je fais régulièrement parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait gagner du temps, même si ce n'est pas l'impression que ça donne au départ, c'est j'ai décidé de recommencer à zéro. Donc, quand je dis recommencer à zéro, je suis allée à la bibliothèque et j'ai emprunté le livre La finance pour les nuls et les maths pour les nuls, et tous les jours, j'ai lu les chapitres, j'ai refait des calculs de base, vraiment niveau sixième, quoi. Et en fait, petit à petit, j'ai augmenté mon niveau à tel point qu'à la fin de l'année, en fait, je donnais des cours de tutorat en finance internationale à certains élèves de ma classe qui ne comprenaient rien non plus. Et j'ai eu une super bonne note en finance internationale, une des meilleures de ma promo. Et en fait, j'aime beaucoup la finance internationale. Et grâce à ça, j'ai développé plein de compétences qui aujourd'hui sont très utiles et qui ont été très utiles en fait dans le reste de ma vie, puisqu'après, ben, quand j'ai travaillé dans l'humanitaire, j'étais spécialisée dans tout ce qui était levée de financement internationaux. Donc voilà, je suis restée dans ce milieu-là quand même sacrément longtemps, mais c'est en repartant des bases. Pareil, en finance internationale, il y avait pas mal de choses avec des tableurs Excel, des formules à faire, des calculs. Alors, à l'université, on est obligé de passer un module où on voit les bases d'Excel. Donc, et nous, en LEA, on avait eu un module renforcé, donc j'avais quand même des bases. Mais en fait, là, pareil, j'ai décidé de ne pas me démonter. Quand je ne savais pas quelque chose, ben, c'est pas grave. J'allais regarder des tutoriels. Je fouillais dans toute la base de données de Excel. D'ailleurs, j'ai vu un chiffre assez effrayant l'autre jour, on est plus de 70% des personnes qui travaillent utilisent Excel, mais il n'y a même pas 1% qui sait utiliser correctement Excel. Donc, on n'utilise même pas Excel à sa juste valeur. Et moi, aujourd'hui, Excel et les tableurs, c'est devenu un de mes outils favoris. D'ailleurs, j'aime trop m'amuser avec. Et en parlant d'amusement, je disais tout à l'heure que je transformais beaucoup de mes apprentissages en jeu. Et en fait, je pense que quand on n'arrive pas à apprendre quelque chose, le tourner sous forme de jeu, c'est la meilleure chose à faire. Et ma maman qui fait du Montessori, elle a beaucoup utilisé ça pour certaines de mes sœurs. Elle a par exemple ce qu'on appelle le système des dictées muettes. Donc en fait, c'est des symboles qui correspondent à une classe de mots. Et ensuite, il faut écrire des dictées avec ça. Et chez nous, parfois, le dimanche, on s'amusait à faire des concours de dictées muettes. Et du coup, ben voilà, moi j'ai appris des nouvelles classes de mots. J'ai revu mon français en m'amusant en fait. Le Scrabble, c'est un outil qui est fort utile pour développer le vocabulaire et travailler par exemple son orthographe. Moi, j'ai certaines de mes sœurs qui n'étaient pas très bonnes en orthographe, mais à partir du moment où elles se sont mises à jouer au Scrabble, ben, elles sont très très bonnes au Scrabble et leur orthographe s'est améliorée. Donc je pense qu'il y a plein de jeux qui peuvent vraiment aider à apprendre. Dans notre famille, on est fan aussi de petits bacs. Ce jeu où on choisit des catégories, et ensuite il y a une lettre qui sort, il faut écrire un maximum de mots en un minimum de temps dans chaque catégorie. Et en fait, nous, on faisait énormément de jeux comme ça à la maison. Donc, je pense que pour l'apprentissage, en tout cas d'un point de vue culture générale, en fait, ça nous a avantagés dans ma famille. Et le fait de jouer à ça, on jouait à ça en famille, même avec mon papy, tout ça, en fait. Il y a des connaissances des générations d'avant que nous, on n'a pas, mais moi, le fait de jouer avec ma maman, mon papa, mon papy, en fait, ça m'a permis d'avoir des connaissances. Par exemple, mon papy, il était hyper fort dans tout ce qui. Il connaissait tous les départements français, par ordre alphabétique. Tu lui donnais un numéro, il savait exactement, il avait une culture G sur tout ce qui est politique aussi, extrêmement élevé. Et en fait, le fait de jouer à ce genre de jeu, j'ai découvert des personnages politiques que je connaissais pas. Une de ma sœur qui est artiste, ben, j'ai découvert le milieu artistique et des artistes grâce à ça. Donc je pense que ça, c'est un moyen d'apprentissage qu'on n'utilise pas assez et qui non seulement favorise l'apprentissage, mais favorise aussi le lien familial. Et donc ça fait deux en un. Et ben, en parlant de lien, je pense aussi que dans les discussions, les échanges, c'est là qu'on apprend aussi. Moi, j'ai jamais eu peur en fait de m'immiscer dans une discussion sur un sujet où je connais rien. Ou alors à jouer ce que j'appelle l'avocat du diable. Souvent, j'ai un point de vue très arrêté sur des discussions, mais quand il y a un débat qui s'élève à la maison, moi, j'aime bien prendre un point de vue ou lancer un point de vue qui est pas du tout celui que je crois ou sur lequel je me positionnerai. Mais en fait, ça déclenche des choses. Les gens vont sortir des chiffres, des statistiques, des personnages, citer des gens. Et en fait, moi, j'apprends trop en faisant ça. Ou écouter aussi. J'aime bien, par exemple, je disais tout à l'heure, je me pose souvent dans des cafés et parfois j'entends des gens à côté de moi qui ont des discussions passionnantes. Donc là, je mets mes écouteurs, mais je ne mets pas de musique et j'écoute. Et en fait, j'apprends énormément sur plein de sujets. C'est notamment comme ça que je reste au fait de l'actualité parce que j'avoue que depuis la crise Covid, j'ai pris la décision de plus lire le journal parce que c'était trop anxiogène pour moi. Mais en fait, j'ai jamais manqué une seule actualité. Entre ma petite sœur qui m'a appris que TikTok est actuellement une source d'information, peut-être pas toujours fiable, mais en tout cas, on est au courant des choses qui se passent. elle en sait souvent plus que moi sur les changements politiques et ce que fait notre président grâce à TikTok que moi. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en étant juste curieux et à l'écoute, on apprend énormément de choses. Et qu'en fait, notre cerveau est extrêmement puissant pour réussir à faire lui-même des connexions et des liens avec d'autres choses qu'on a entendues ou qui sont juste passées devant nos yeux. Et qu'en fait, moi, ça m'est arrivé en fait qu'on me pose des questions sur un sujet où j'ai jamais lu dessus. J'ai pas fait de recherche sur Internet. Et en fait, juste parce que j'ai entendu quelqu'un un jour dire un mot, que j'ai vu passer une pub, ou que j'ai. En fait, j'arrive à tenir une discussion. Alors, je ne vais pas pouvoir aller à fond forcément dans la discussion, mais j'arrive à participer à la discussion et avoir suffisamment de connaissances pour y participer. Alors que vraiment, je n'ai jamais étudié le sujet. Donc, je pense que Dieu, il nous a fait avec un cerveau vraiment génial et qu'il faut juste apprendre à bien s'en servir et à bien le nourrir. Et en parlant de bien nourrir son cerveau, ça a été le summum de mon avancée de l'apprentissage. Et ça, c'est ce que j'ai mis en place en master 2. Donc, en fait, j'ai fait mon master 1, je l'ai validé, mais ça ne me plaisait pas ce que je faisais en M1 parce que c'était trop financier. Et pour moi, l'humanitaire et tout ça, je cherchais quelque chose de plus humain et de peut-être un peu plus, moins porté finance, mais plus intellectuel. Et du coup, en fait, j'ai demandé à faire une passerelle en fac de droit. Sauf que je n'avais pas de diplôme en droit. J'avais fait du droit tout au long de ma scolarité parce que ben, c'était obligatoire en LEA. Et puis, quand tu fais du management de projet, il y a quand même quelques notions de droit à avoir, etc. Mais là, j'ai fait une passerelle pour entrer directement en fac de droit et directement en master 2. Donc, c'était un pari osé, mais j'ai été acceptée à condition que je fasse en même temps que mon master 2 une remise à niveau en droit. Donc, j'ai passé un certificat d'études en culture juridique, politique et sociale, où en fait, c'était en gros une mise à jour en droit assez intensive. Donc j'ai fait ça en même temps que mon master et j'ai obtenu les deux haut la main. Je suis même sortie major de ma promo de master en droit, de mon parcours droit international et européen spécialisé dans l'humanitaire. Et en fait, là, c'est ce qui m'a aidée, c'est qu'à ce moment-là, j'ai découvert un peu tout ce qui est, je sais pas trop comment on appelle ça. En fait, c'est tout ce qui est nutrition et les bienfaits de la nutrition sur le cerveau, en fait. Les bienfaits aussi de certaines habitudes de vie. Et donc, en fait, mon année de master 2, j'ai été hyper carrée là-dessus. Donc, en fait, je dormais, vrai, j'essayais de dormir au max les 8 heures par jour parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on dort, le cerveau, il fait un travail incroyable, mais vraiment incroyable. Le fait, par exemple, sur les leçons difficiles que j'avais de les lire juste avant de m'endormir. Je mangeais aussi. Spécialement par exemple le samedi je me faisais des j'avais décidé que j'étudierais que le samedi plus les dimanches parce que je voulais avoir mon week-end de libre et en fait pendant mon année de master 2 j'ai passé trois diplômes en un an donc j'avais énormément de travail Et j'avais décidé que j'avais quand même besoin de respirer, donc que je ne travaillerais pas le dimanche. Donc en fait, mon samedi, je me faisais 7h-19h ou 7h-17h de révision et de travail scolaire. Et pour ne pas mourir pendant ces 7 heures, j'avais un rituel très précis. J'avais donc de l'eau, du chocolat, des fruits secs toujours sur moi. Et en fait, j'appliquais différentes méthodes d'apprentissage. J'ai mixé différentes choses. Donc, j'ai mixé la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si on la connaît. C'est une méthode qui consiste en fait à faire des tranches de travail d'une vingtaine de minutes. Puis ensuite, une pause de 5 minutes, d'enchaîner 3 cycles comme ça, et ensuite de faire une plus longue pause. Et on enchaîne les cycles de 20 minutes, 5 minutes de pause, et au bout de 3 cycles, on fait une longue pause. Alors moi, comme j'ai une capacité de concentration quand même assez élevée, je ne faisais pas des cycles de 20 minutes, mais je faisais en gros des cycles de 40 minutes à peu près. Mais toutes les demi-heures, je buvais. Et toutes les demi-heures, je buvais, toutes les heures, je mangeais un carreau de chocolat noir parce que le chocolat noir, c'est hyper bon pour le cerveau. Et il n'y a pas trop de sucre dedans, donc ça ne fait pas de mal à la santé, normalement. Et toutes les heures, je sortais ou j'ouvrais la fenêtre, je mettais la tête à la fenêtre pendant 5 à 10 minutes. Et je faisais plusieurs cycles comme ça. Et toutes les 2 heures, je me faisais une sieste sur ma table de 15 minutes. En fait, le chrono, ça s'appelle du chronosommeil ou les siestes rapides. C'est quelque chose que j'avais entendu en fait une fois. J'étais animatrice de colo dans un séjour artistique et on est parti en tournée pendant ce séjour. En fait, j'écoutais les techniciens son discuter entre eux de comment ils faisaient pour tenir le rythme de j'arrive le matin, je dois monter mon matériel, je démonte en pleine nuit. Je dors quelques heures et hop, je repars sur l'autre lieu de concert. Et au final, j'ai très peu de sommeil sur une tournée. Et j'avais entendu un des techniciens qui disait qu'en fait, quelque chose qui était souvent fait dans ce milieu-là, c'est les micro-siestes. Et comment il faisait, c'est qu'en fait, il prenait un objet bruyant dans la main, il s'allongeait, il se détendait. Et en fait, au moment où ton corps se détend réellement et que tu atteins en fait une phase de sommeil réparateur, donc, comme tu te détends, tu vas faire tomber l'objet qui fait du bruit et ça va te réveiller. Et du coup, ça dure entre 5 et 15 minutes. Et en fait, j'ai souvent appliqué ça. Et encore aujourd'hui, parfois, quand je n'ai pas le temps, mais que je sais que j'ai besoin de dormir, de me reposer, j'applique ce système-là. Voilà, ça, c'est encore un truc que j'ai appris juste en écoutant une conversation à laquelle je ne devais pas faire partie, mais voilà. Et ça m'a été très utile. Et du coup, j'enchaînais ces cycles comme ça et ça me permettait d'étudier de 7h à 19h, en fait, sans être fatiguée. Puisque toutes les heures, je me levais, je respirais, je mangeais. Je faisais en sorte d'avoir aussi un repas. Au bout de 4 heures, je me prenais une vraie pause d'une demi-heure, 3 quarts d'heure pour manger. Et hop, je relançais le rythme. Et j'ai fait ça pendant toute mon année de master, en fait. Et comme j'étais régulière, disciplinée, en fait, moi, j'étais prête pour les examens 3 mois avant les examens parce que j'avais pas laissé mon travail s'accumuler, en fait. Tout ce que je faisais chaque soir, chaque semaine, chaque week-end, en fait, ça me permettait à chaque fois d'arriver aux examens en étant prête. J'étais vraiment prête. Et moi, je voyais les autres étudiants, que ce soit en licence, en master 1 ou en master 2, qui, un mois avant les examens, ils étaient stressés, ils vivaient à la bibliothèque. Mais en fait, moi, je comprenais jamais. Je me disais, mais en fait, pourquoi t'es autant stressé? Maintenant, t'as 6 mois de cours à rattraper. Et en fait, non, moi, mon cours, je le connais déjà. Et ce que je faisais aussi pour pas oublier ce que j'avais appris 3 mois avant, alors ça, ça vient de ma maman, je pense. Oui, ça vient de ma maman et probablement aussi d'un prof de japonais. Ça doit être un mixte, mais en gros, ma maman me disait toujours, il y a pas une connaissance non utilisée est une connaissance oubliée. Donc, ce que j'essayais, c'était d'utiliser mes connaissances au maximum dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, pour l'anglais, quelque chose que j'ai fait, c'est que je me disais, ben voilà, au lieu de regarder tes séries en français, tu vas les regarder en anglais. Comme ça te fait utiliser ton vocabulaire, tu es en train de joindre l'utile à l'agréable. Et maintenant, c'est une habitude que j'ai prise. J'ai plus l'occasion de parler beaucoup anglais parce que je travaille plus dans un environnement international depuis 3 ans. Mais je regarde toutes mes séries en anglais. Et du coup, je ne perds pas mon anglais. Alors, il ne s'améliore pas forcément, mais je ne le perds pas parce qu'en fait, il est tout le temps activé. Et c'est devenu une habitude pour moi. Et aujourd'hui, ben, voilà, ça me permet de regarder Netflix sans culpabilité en me disant, ben voilà, je joins l'utile à l'agréable. C'était par exemple aussi d'essayer d'utiliser mon vocabulaire japonais dans une discussion de tous les jours, les petits mots que je connaissais, les placer au lieu de les placer en français. Qu'est-ce que j'ai fait aussi Ben, par exemple, ma petite sœur, j'ai une de mes sœurs qui est en fac de droit et ce que j'aime bien, et je trouve que c'est un bon moyen voilà, d'utiliser ce qu'on apprend et de le mettre dans le quotidien et même de le rendre fun, c'est que ma sœur, chaque semaine, l'année dernière, elle apprenait, je pense, un nouveau mot en fac de droit. Et donc, toutes les semaines, on avait droit à une nouvelle expression. Donc, quand on lui disait quelque chose qui lui plaisait pas, elle s'exclamait à grands cris, parjure, parjure. Et c'est devenu un vocabulaire de la famille. Mais je pense que c'est un très bon exemple en fait, de ce que c'est d'utiliser ce que tu apprends et de le calquer. De le caler dans ton quotidien. Et du coup, je pense que ma sœur, elle sait exactement ce que c'est que la parjure. Pareil, ça nous arrive dans des discussions, on va lui dire un truc et hop, elle va nous balancer un article de loi, du code de la famille ou autre, qui n'a rien à voir en soi avec la discussion, mais qui rend la chose très drôle, qui détourne son cours, qui le rend fun et qui en même temps prouve qu'elle a appris et qu'elle a compris de ce dont elle parle. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et enfin, pourquoi je disais ça? Oui, et j'ai un prof de japonais qui nous disait, le japonais, pour l'apprendre et le retenir, il faut l'oublier 7 fois. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que oublier, c'est pas un problème. Le problème, c'est oublier sans réactiver. Donc j'avais un système de classement de mon vocabulaire où en fait... Donc, je créais ces jeux-là avec ces flashcards et en fonction de si j'avais eu juste, faux ou si j'avais hésité, je ne me souvenais pas de mon vocabulaire, je les classais en 3 piles. Et tout ce qui était parfaitement appris au moment T, il allait dans une boîte à revoir dans une semaine. Puis ensuite à revoir dans un mois, puis à revoir dans 3 mois. Et en fonction de si au moment où je le revoyais dans une semaine, un mois ou 3 mois, c'était toujours bon, ben ça restait dans la boîte à revoir dans 3 mois. Si ça avait dégringolé d'une échelle, ça allait dans la boîte à revoir dans un mois. Et du coup, ça fait que le vocabulaire inconnu ou mal appris, je le revoyais plus souvent jusqu'à qu'il aille dans la boîte supérieure ou ainsi de suite. Et ça, c'est un système d'apprentissage qui fait que oublier n'est pas un problème, mais au contraire te permet d'évaluer où tu en es dans telle catégorie, dans tel apprentissage, et de pouvoir savoir où mettre le paquet. Parce que parfois, on a tendance aussi, moi j'ai vu beaucoup de gens qui en fait revoient leurs notes, mais de façon pas du tout smart. Et ça sert à rien de revoir un cours 10 fois si tu connais déjà. Par contre, revoir peut-être un chapitre du cours que tu ne connais pas du tout, oui, ça c'est intelligent et finalement c'est un gain de temps parce que tu vas revoir exactement ce dont tu as besoin. Et c'est là que les fiches mémo sont très utiles parce que du coup, ça t'évite de devoir reprendre tout un cours qui est très long et de pouvoir te focaliser juste sur la partie dont tu as besoin. Alors après, là, je parle d'apprentissage plutôt intellectuel, mais il y a une autre part d'apprentissage qu'on oublie beaucoup et qui, moi, j'ai mis plus de temps à l'apprendre. J'étais très intelligente intellectuellement, mais socialement parlant et émotionnellement parlant, je pense que pendant très longtemps, j'étais à la traîne. Et je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait souvent, c'est de tout mettre... Et moi, ma mère, elle nous mettait beaucoup la pression sur les connaissances intellectuelles, sur le fait de réussir à l'école, mais vachement moins sur le développement du caractère, travailler ses émotions, etc. Et aujourd'hui, on entend beaucoup dans le monde professionnel parler de hard skills, donc le savoir-faire, et de soft skills, donc c'est plutôt le savoir-être. Et je pense que c'est important de ne pas négliger ça. Et moi, j'étais un rat des bibliothèques. J'ai passé tout mon temps, mes 5 ans d'études à la bibliothèque, en salle de cours. Enfin, j'étais vraiment, j'ai envie de dire, au summum de l'apprentissage intellectuel. Mais je n'avais pas du tout pris le temps de développer mes compétences soft skills. Et donc, ça a été très dur après dans le monde du travail. Parce qu'au final, quand on travaille, ce qu'on apprend à l'école ou au lycée ou à l'université, on l'utilise très peu. Moi, si je suis totalement honnête, j'ai dû utiliser, allez, entre 10 et 30% de ce que j'ai appris à l'école dans mon métier, ce que j'ai appris, mais par contre, ce que j'ai appris en termes de soft skills, de relations humaines, de gestion des émotions, gestion du stress, ben, j'ai tout appris dans le milieu du travail, mais je suis certaine que j'aurais pu l'apprendre dès l'école, j'aurais pu l'apprendre à la maison. Et donc, je dirais que c'est important aussi de ne pas oublier que la vie quotidienne, en fait, est une source d'apprentissage. Et peut être et aussi une source d'apprentissage spirituel. Moi, quand je me balade dans la forêt, j'ai appris à plus me balader juste pour me balader, mais aussi à ouvrir mes yeux et à voir d'autres choses. Quand je regarde des films aussi, ça, je l'ai appris en école biblique, où la maison où je résidais en école biblique, les filles, elles étaient fans de films. Et tous les soirs, c'était film. Et moi, j'allais jamais à toutes ces soirées film parce que franchement, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles apprennent rien. Moi, je vais prendre un livre, je vais apprendre, je vais faire mes devoirs, je vais faire un truc, mais regarder des films tous les jours, tous les soirs, franchement, je trouve pas ça intéressant. Vraiment nul. Et j'étais vraiment en mode jugement, à fond la caisse. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que, en fait, non, il y a quelqu'un qui partageait un témoignage et qui disait qu'en fait, elle, sa façon de se connecter à Dieu, c'était au travers des films. Moi, je me suis dit, c'est totalement délirant son truc. Mais en fait, c'est vrai que les films, ils nous apprennent beaucoup sur la vie, sur ce qu'il faut faire, pas faire, sur justement comme l'homme est imparfait, et ça peut nous remettre des choses en perspective. Et du coup, ça m'arrive régulièrement quand je regarde un film d'avoir mes notes dans mon téléphone ouvertes. Et en fait, de noter des phrases, de noter des choses que j'entends, je le fais aussi maintenant quand je lis. Et je rigole souvent, là, je fais un parcours, je fais une formation de coaching d'équipe. Et un des délires, c'est que je viens souvent avec des citations de Kung Fu Panda. Et maintenant, l'objectif à chaque fois qu'on fait nos comptes rendus en formation, c'est que j'arrive à placer une citation de Kung Fu Panda. Et j'y arrive quasiment à chaque fois parce qu'en fait, Kung Fu Panda, ça a beau être un film d'enfant, mais il est hyper, hyper inspirant. Et il y a plein de citations qui, justement, pour développer des soft skills, apprendre sur soi, apprendre sur son caractère. Eh ben, sont hyper, hyper bien, en fait. Par exemple, là, il y en a une sous les yeux, parce que j'ai ouvert ma note. J'ai une note dans mon téléphone spécial Kung Fu Panda, du coup, qui dit « Il n'y a aucun ingrédient secret, c'est en nous. » Eh ben, pour moi, ça, par exemple, pour l'apprentissage, ça va très bien avec ça. Il n'y a pas forcément un ingrédient secret. En fait, chacun en nous, on a une façon d'apprendre, on a des choses qui nous passionnent, on a une façon de faire qui nous est propre. Et en fait, je pense que pour performer, c'est pas forcément d'aller copier ce que fait le voisin, s'en inspirer lui, mais en fait, on a chacun en nous un système d'apprentissage qui fait qu'on peut performer. Voilà. Et sur ce, du coup, je vais m'arrêter avec ma citation Kung Fu Panda.
Alors, le dernier point que j'aurais voulu voir avec toi, c'est que tu en as parlé vite fait, du fait que tu étais aussi passé dans la transmission, tu as fait du tutorat, etc. Et puis, justement, il me semble que c'est l'aboutissement de l'apprentissage, c'est quand on est en capacité de commencer à transmettre. Il y a cette célèbre citation d'Einstein. Chacun ses citations, hein. Moi, c'est pas Kung Fu Panda, tu vois, c'est Einstein.
C'est plus
Si
smart.
vous ne pouvez. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne comprenez pas complètement. Et quelle est ton approche par rapport à ça? Est-ce que ça a été facile? Parce que savoir apprendre, développer des méthodes d'apprentissage, c'est une chose. Transmettre, c'est un autre métier.
Ouais, alors je dirais que ça s'est fait en plusieurs étapes. Je dirais que déjà au niveau de l'école, alors moi j'étais dans une école privée chrétienne, donc avec des méthodes pas forcément toujours classiques. Et je pense que ça devient de plus en plus à la mode. Enfin, j'entends souvent ça et quand je vois passer des articles sur l'éducation, c'est un concept que je vois qui ressort souvent. Aujourd'hui, on parle je crois, de classe inversée ou d'enseignement inversé, où ce sont les élèves qui font le cours. Et je pense en effet que c'est vrai quand on transmet quelque chose, le fait d'avoir fait les recherches pour le transmettre, d'avoir un peu une position d'expert, ça développe une certaine confiance en soi qui fait qu'on apprend mieux. Et je pense que c'est le principe d'ailleurs des exposés. Enfin, moi, je sais que quand je faisais des exposés à l'école, ben, voilà, j'étais contente. Déjà, on est dans une position où c'est toi qui apportes. Je pense qu'il y a tout un cadre autour qui fait qu'on apprend mieux. Et qu'en effet, on est obligé aussi d'aller creuser le sujet parce qu'on sait que les autres peuvent nous poser des questions et qu'on va devoir répondre à des questions. Donc, en fait, je pense qu'on a une approche plus profonde des sujets que quand on apprend juste comme ça. Et je pense qu'à la fac et au lycée, ils essayent aussi de développer davantage justement ce type d'apprentissage. Moi, je sais que en master, on avait énormément ça, où on avait beaucoup de cas pratiques où ensuite, nous, on devait refaire des retours d'expérience, se mettre dans la position d'un expert. On avait beaucoup d'exposés aussi, beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'en effet, transmettre quelque chose ou se mettre dans la peau de quelqu'un qui va devoir le faire, tout ce qui est serious game, ça aide vraiment à apprendre. Après, je dirais que la formation et la transmission pure, je l'ai apprise beaucoup plus tard. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Si je suis hors du contexte universitaire scolaire, parce qu'en fait, à l'université, voilà, c'était beaucoup d'exposés, mais il n'y avait pas vraiment de formation. Je ne devais pas former les autres, à part quand j'ai fait du tutorat. Et encore là, quand je faisais du tutorat, ben, en fait, c'est, je repartais de ma propre expérience de OK, on reprend les bases. Moi, j'ai compris ça comme ça. Je dessinais, je mettais des couleurs, je reprenais ce qui fonctionnait pour moi. Et j'essayais de faire en sorte que la personne en face comprenne ce que je lui expliquais. Mais il n'y avait pas forcément une recherche de comment vraiment transmettre un savoir. Je pense que la première fois où j'ai été confrontée à ça, c'est que quand j'étais en LEA, j'ai suivi des modules de français langue étrangère. Et donc là, j'ai vraiment appris des méthodologies pour apprendre à apprendre et pour permettre à l'autre d'apprendre. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça passionnant et super intéressant. Et ça a beaucoup nourri ma façon, moi, d'apprendre aussi, et nourri ma façon de passer par le ludique pour apprendre. Mais je pense que j'ai vraiment développé cette compétence de transmission, en fait, quand je suis devenue coordinatrice de service civique. Donc, après que je sois rentrée de Thaïlande et ma chute personnelle, j'ai pris un job parce qu'il fallait que je trouve un job. Et le seul job que j'ai eu, c'était d'être coordinatrice de service civique. Et je me suis retrouvée avec 20 jeunes. Donc, j'avais 10 jeunes qui avaient entre 16 et 18 et 10 jeunes qui avaient entre 18 et 25. Autant dire que tous les jeunes en dessous de 18 ans que j'avais, c'était des jeunes qui étaient en rupture scolaire. Puisque normalement, enfin, la plupart des Français, ils vont jusqu'au bout du bac et quand ils arrêtent avant, soit ils sont dans un diplôme professionnel, un bac pro, un CAP. Donc là, ce que j'avais, c'est qu'ils étaient en rupture scolaire. Donc, j'avais pas forcément des profils, très intellectuels. Déjà de A, j'avais beaucoup de profils aussi avec des histoires de vie très compliquées. Donc, on va dire que ici, le contexte d'apprentissage, il est déjà pas au top. Et après, j'avais beaucoup de. Pour ceux qui avaient plus de 18 ans, c'était des gens qui avaient fait une année d'études, qui n'avaient pas aimé ce qu'ils avaient fait, d'autres qui étaient arrivés au master et qui se rendaient compte qu'ils avaient fait 5 ans d'études et qu'en fait, ils n'avaient rien appris sur la vie, qu'ils ne savaient plus qui ils étaient, ce qu'ils voulaient faire. Enfin, bref. On va dire qu'en termes d'environnement d'apprentissage, il y avait de quoi faire et en même temps, il y avait beaucoup de lacunes. Et moi, ces jeunes-là, bah, en fait, je devais leur proposer un parcours de 9 mois. Donc, ils étaient à la fois dans des associations locales pour développer on va dire, des hard skills, à découvrir le monde du travail, mais je les avais aussi plusieurs fois par semaine ou dans le mois pour ben, les former et transmettre des choses. Et c'est là où j'ai eu une approche peut-être plus consciente de comment former des gens. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment de formule magique à donner parce que j'y suis allée, on teste, on rectifie le tir, enfin, vraiment les méthodes start-up, itération, apprentissage sur le tas. Après, j'ai eu la chance d'avoir une formation quand même qui a été, que j'ai beaucoup aimée, sur les moteurs de motivation. Où là, l'objectif pour transmettre quelque chose à l'autre, c'était de découvrir quel était son moteur de motivation. Dans le sens où il y a des personnes comme moi, par exemple, un de mes très, très gros moteurs de motivation, c'est la compétition, c'est le challenge. Je vois certaines de mes sœurs, je leur mets une compétition, un challenge en face d'elles, elles ne vont rien apprendre parce que ça les stresse tellement que ça les bloque totalement. Donc, il y en a pour qui le moteur d'apprentissage, ça va être le lien social ou l'artistique. Donc, j'ai combiné ça avec ce dont je parlais avant, les différents profils d'apprentissage, comme ben, visuel, auditif, kinesthésique. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'essayais à chaque fois que je développais un matériel de formation, d'en apporter pour tous les goûts, d'avoir à la fois quelque chose où ils vont bouger, quelque chose, un support visuel qui soit bien fait. Et en même temps, bon, quand on fait une formation, quand c'est descendant, il y a l'auditif qui est là. Et j'essayais d'avoir des choses au maximum participatif, en fait. Et le fait d'impliquer ceux qui apprennent, je trouve que ça. Ben, en fait, on transmet, mais ils apprennent en même temps d'eux-mêmes, en fait. On n'est pas dans justement ces formations assez universitaires où il y a quelqu'un qui parle, qui a la science. Tout le monde, en fait, a des connaissances et a quelque chose à apporter. Donc, j'utilisais pas mal quelque chose que j'avais appris quand j'ai fait mon année d'entrepreneuriat, qui sont les cercles de dialogue. Donc, en fait, plutôt que d'avoir un intervenant qui fait tout, je les mettais en cercle et en fait, on partait de ce que eux savaient et de ce que eux avaient appris et envie d'apprendre. Donc, ça fait qu'en fait, on se rend compte que finalement, moi, je ne détiens pas tout le savoir sur un sujet, je peux apprendre d'eux et eux peuvent apprendre des autres et ils se rendent compte qu'ils ont aussi quelque chose à transmettre, en fait. Et les cercles de dialogue, comment ça se passe? En gros, il y a quatre règles. C'est suspendre le jugement. Donc, on ne juge pas ce que l'autre dit. Parler avec son cœur. L'écoute active. Et la quatrième. Ah oui, et jouer, prendre la posture de l'avocat de l'ange plutôt que l'avocat du diable pour pas couper l'élan de quelqu'un qui parle, qui partage quelque chose. Et du coup, en fait, parfois, je partais d'une question. Ben, je me souviens que j'ai fait une séance sur le leadership. Donc, moi, j'ai fait une école du leadership. Ça aurait été très simple pour moi, en fait, de juste venir poser, être un leader, c'est ça, nanana, nanana. Mais en fait, j'ai commencé en disant, pour vous, c'est quoi un leader? Donne-moi un exemple. Est-ce que tu as déjà pu expérimenter ça? Et en fait, là, moi, ça me permet d'apprendre déjà le niveau de connaissance des personnes qui sont en face de moi et de pouvoir adapter sur le moment ce que je veux apporter, savoir sur quoi je dois me focaliser ou pas. Mais ça permet aussi entre eux qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils savent déjà des choses, qu'ils ont déjà appris des choses. C'est aussi quelque chose que j'utilisais. On parlait tout à l'heure de hard skills et soft skills, mais je pense que parfois, en fait, on ne nous apprend pas à voir ce qu'on apprend. Et on n'est pas conscient, en fait, de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on a appris. Donc, ces jeunes-là, par exemple, ben, j'avais des jeunes, ils n'ont pas de diplôme. Ils ont, d'un point de vue sociétal, rien fait de leur vie. Et là, ils doivent faire un CV pour trouver du boulot. Et ils viennent me voir, ils me disent, ben, j'ai rien à mettre sur mon CV, j'ai rien fait, je connais rien, je sais rien. Et en fait, moi, je repartais de leur quotidien. OK, donc toi, ta passion, c'est la pâtisserie, tu fais des gâteaux. Qu'est-ce que ça t'a appris de faire de la pâtisserie? Et puis là, on se rend compte, ben, tu sais faire des calculs mentaux. Alors, peut-être pas très compliqué, mais tu as appris à calculer en faisant de la pâtisserie. Tu as appris à être précis, parce que la pâtisserie, ça nécessite d'être précis. Tu as appris que je sais pas, les fèves tonka, elles sont cultivées au Brésil et que c'est un truc rare. Enfin, et en fait, se rendre compte que l'apprentissage, il est dans le quotidien, il est tout le temps. Et je pense que quand on veut transmettre à l'autre, c'est important justement de ne pas arriver en se disant je sais, mais plutôt en se disant tiens, qu'est-ce que moi je peux apprendre de la personne à qui je transmets? Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Après, voilà, ça m'arrive encore de faire des formations qui sont assez descendantes, hein. Récemment, j'en ai fait une pour les employés du café où je bosse. Voilà, il n'y avait pas le choix, là. Parfois, il n'y a pas le choix. Mais j'essaye de limiter ça au maximum pour que justement tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, je prévois en général toujours un support papier pour que ceux qui sont plus justement visuels, ils puissent colorier, prendre des notes, etc. J'essaie d'utiliser des couleurs. J'essaie toujours d'alterner une phase de descendant avec une phase de travaux pratiques. Parce que même quand on a un sujet qui paraît nul, comme moi par exemple le maths, pour moi, jusque tard, pour moi, ce n'était pas un sujet concret, pratique. Mais en fait, on peut très bien faire ça, on peut très bien rendre les maths pratiques. Et moi, je le vois en Montessori, où on utilise des perles, où on peut compter des pommes, toucher. Enfin, il y a plein de moyens. C'est juste que quand on transmet et qu'on est formateur, en fait, ça nous oblige à sortir notre zone de confort. Et moi, je pense que si aujourd'hui le système scolaire, il est tellement descendant, hein, encore aujourd'hui, même si on commence doucement à voir une évolution vers des choses, ce qu'on appelle alternatives, mais qui pour moi, en fait, sont juste normales et sont juste humains, je pense que c'est parce qu'en fait, ça met le formateur, l'instructeur, l'éducateur, l'enseignant, enfin, peu importe qui est celui qui se pose comme sachant, en fait, ça le met dans une position d'inconfort. Parce que le problème, quand on part sur des choses comme des cercles de discussion, des cas pratiques, on se rend compte que bien souvent, il y a une question qui va être posée à laquelle on n'a pas pensé, où on n'est pas préparé, et où on est obligé de reconnaître ben, que on ne sait pas, que je ne sais pas, ah ben tiens, j'ai pas pensé à ça. Et ça demande une certaine humilité qui n'est pas forcément facile à avoir quand on a l'habitude d'être celui qui sait toujours tout, en fait. Ça demande aussi une certaine flexibilité, dans le sens où moi, ça m'est déjà arrivé, ben, j'arrive, j'ai préparé tout un contenu pour 4 heures d'après-midi, et là, je fais juste la météo du jour avec mes jeunes, bon, comment ça va? Et puis là, je sens qu'ils sont tous HS. Ok, ben là, je sais très bien que transmettre quoi que ce soit quand tu as 20 jeunes en face de toi qui sont HS et qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux. Et en tout cas, la dernière envie qu'ils ont, c'est d'être là devant toi et de passer 4 heures à t'écouter. Ben moi, ça m'est déjà arrivé de transformer une session d'apprentissage avec mes jeunes en jeu de ballon et cache-cache géant. Parce que, en fait, il n'y a pas le choix. Et pour moi, ce n'est pas un échec d'apprentissage parce qu'en fait là à ce moment-là je suis peut-être pas en train de leur apprendre un hard skill ou de la culture G mais je suis en train de leur apprendre que ben c'est pas grave si le programme n'est pas toujours suivi à la lettre, je suis en train de leur apprendre l'esprit d'équipe, je suis en train de leur apprendre à coordonner leurs mouvements et je peux dire que même pour des adultes c'est pas toujours acquis et en fait ben apprendre c'est comme ça, c'est tout le temps, c'est toute la vie. Et après, quand je transmets, enfin, chaque année, je fais une colo linguistique, dont l'objectif, c'est d'aider. Enfin, l'objectif, on va dire, c'est vendu. C'est une colo linguistique déjà qui a lieu en Alsace pour apprendre l'anglais. Donc, on va dire que le côté voyage linguistique, il n'est pas là. Mais moi, dès le départ, en fait, j'ai décidé que pour moi, ce n'était pas une colo où on allait apprendre l'anglais. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants en fait qui arrivaient en colo, tout stressés, leurs parents les mettaient là parce qu'ils pensent qu'ils sont nuls à l'école en anglais. Et en fait, non. Moi, dès le départ, ça a été leur apprendre à apprendre l'anglais et surtout à se rendre compte qu'ils peuvent l'apprendre et que l'anglais, ça peut être fun et que ce n'est pas juste quelque chose de chiant qu'on assiste 1 heure par semaine à l'école ou plus. Et du coup, en fait, là, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je prends un thème et j'essaie de le relier à l'actualité et sous forme de jeu. Donc, par exemple, en automne dernier, on avait le thème, il y a la reine qui est décédée, etc. Donc, on a fait le thème de la famille royale anglaise. Et en fait, je ne leur ai pas fait un cours sur qui est la reine, combien elle a d'enfants, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des photos de toute la famille royale et je leur ai demandé, pendant 2 après-midi, 2 fois 2 heures, de reconstituer l'arbre généalogique sur la base de ce qu'ils connaissaient et des indices que je leur avais mis à disposition. Et du coup, ils ont construit eux-mêmes l'arbre généalogique, ils se sont trompés, ils ont essayé, ils sont venus me voir, ils m'ont demandé, mais je pense qu'ils ont beaucoup plus retenu de choses en faisant par eux-mêmes que si moi j'avais fait quelque chose de descendant. Donc voilà, c'est des choses que j'essaye d'appliquer au maximum. Parfois ça passe, parfois ça casse, mais je pense que vraiment les clés quand on est formateur et qu'on doit transmettre un savoir, c'est de se dire déjà que l'autre n'apprend pas comme nous. Donc, d'avoir du contenu qui soit autant varié que possible pour que tout le monde s'y retrouve, parce qu'en effet, il y a différents profils d'apprentissage. C'est de faire preuve de suffisamment d'humilité pour reconnaître en fait qu'on n'est pas le seul sachant dans la pièce et on ne sait pas tout. Moi, ça m'arrive souvent de commencer mes formations quand j'en fais en disant, ben, écoutez, je ne sais pas tout, ça peut m'arriver de me tromper, donc si je fais une erreur, n'hésitez pas à le dire. Moi, ça ne m'offusque pas du tout. Alors, certes, ce n'est pas forcément grave quand quelqu'un te dit, ah ben non, ce que tu dis, ce n'est pas juste. Mais bon, ce n'est pas grave, j'apprends aussi, justement. Et je pense que c'est aussi se souvenir qu'en fait, la vie quotidienne est pleine d'apprentissage et que parfois, on se casse beaucoup la tête. Alors qu'en fait, autour de nous, il y a suffisamment de sources d'apprentissage pour ne pas toujours revenir sur des choses hyper intellectuelles. Et que l'école, en fait, c'est pas tout. Et que même, je dirais que l'école, c'est même pas 50% de ce qui t'aide à avancer dans la vie. Et moi, je l'ai compris très tard. Alors, je ne dis pas ça pour dire ne va pas étudier, ne va pas à l'école. Je pense que les études sont très importantes dans le sens où elles développent des compétences d'apprentissage qui sont quand même très utiles dans le futur. Mais ce qu'on apprend en connaissance, c'est pas ça qu'on utilise le plus dans la vie. Et donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de se mettre la pression sans arrêt et de demander aux enfants d'avoir les meilleures notes en maths pour qu'ils puissent tous faire un bac S. Bon, ça n'existe plus, mais bon, c'est tout ce que je connais. Je ne sais pas comment ça s'appelle comme aujourd'hui le bac. Parce que sans un bac S, ils arriveront à rien. Et qu'il faut absolument être bon en maths pour réussir dans la vie, c'est totalement faux. Et en plus, de plus en plus d'études viennent prouver qu'il y a plein de types d'intelligence. Il y a des intelligences émotionnelles, il y a des intelligences intrapersonnelles, extrapersonnelles. Et il n'y a pas juste une intelligence mathématique et scientifique, ou juste littéraire, ou juste philosophie. Et je pense que ça, c'est très important de le faire comprendre aux enfants, parce que plus ils vont se dire qu'ils sont nuls dans une matière, moins ils seront bons dans cette matière, moins ils arriveront à l'apprendre, en fait. Et moi, je suis sûre que si on m'avait dit que je n'étais pas nulle en maths, mais que j'ai on, que on m'avait montré une façon plus fun de faire des maths, ou qu'on m'avait montré on m'avait dit, ah ben regarde, t'es super bonne en littérature, ben vas-y, on booste la littérature, etc. J'aurais développé plus de confiance en moi, qui aurait fait que j'aurais automatiquement amélioré mes résultats en maths, juste parce que je sais, et j'en reste convaincue, que la plupart de mes erreurs en maths étaient parce qu'il y avait un système qui ne me correspondait pas. Qui ne me correspondait pas, et une pression que je me mettais tellement pour réussir les maths qu'en fait, je ne pouvais qu'échouer, puisque j'étais persuadée que c'était dur, difficile, etc. Et d'ailleurs, je suis certaine de ça parce qu'il y a quelques années, je m'étais mis en tête de passer des concours pour passer le LSAT, donc c'est le concours d'entrée aux facs de droit aux États-Unis. Et il y a une énorme partie de maths. Et donc là, j'ai refait, je suis repartie au niveau CM2, et tous les jours, je faisais des maths. Et j'ai réussi à arriver jusqu'au niveau 3e en maths, toute seule. Mais juste parce que là, j'étais motivée et qu'au fur et à mesure, je voyais que j'y arrivais. Donc aujourd'hui, je pense que j'arrive à avoir un niveau 4e, 3e en maths, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et je sais aussi que j'étais nulle en maths parce qu'on m'a toujours dit que j'étais. Enfin, je pensais être nulle en maths parce qu'on m'a toujours dit que j'étais nulle en maths. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouvais les réponses justes, mais j'arrivais jamais à expliquer comment j'étais arrivée à la réponse juste. Et donc, on décrétait que j'étais nulle en maths alors que j'étais pas nulle en maths puisque j'avais les réponses justes. J'avais juste pas le bon, j'avais juste pas le bon déroulement de la pensée mathématique, mais ça, c'est quelque chose qui se travaille en fait. Donc, voilà.
Merci beaucoup Ingrid pour toutes ces pistes, ces petites perles que tu nous as données aujourd'hui. Alors, pour te rendre hommage, je vais terminer avec un petit texte que je viens de rédiger en utilisant toute une série de citations de ton film préféré.
Kung
Et
Fu
donc,
Panda.
je vous dirais, n'hésitez pas à planter des graines autour de vous, mais si vous plantez un noyau de pêche, quoi que vous fassiez, cette graine deviendra un péché. Je souhaiterais qu'il donne des pommes ou des oranges, mais il donnera que des pêches. Cependant, rappelez-vous, chaque génération enseigne la suivante. Mais en ce qui vous concerne, sachez que la seule chose qui compte, c'est que et ce que vous décidez de devenir.
Oui. Je suis bien d'accord avec ces textes très jolis. Je veux bien une version d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a des citations qui ne sont pas dans mon petit mémo là.
Ça marche.
Merci
Bon, merci à chacun d'être fidèle et de continuer à nous écouter. Merci à tous ceux qui nous envoient des questions, parce qu'il y a la face de l'iceberg, c'est les podcasts qui sortent, et puis il y a ce qui se passe en sous-main, des gens qui sont mis en relation les uns avec les autres, des gens qui apportent des réponses à ceux qui se posent des questions, des amitiés qui se créent aussi, et puis du lien entre nous, du lien entre vous, et ça, c'est chouette à voir. Alors, merci pour tout ça, et puis à la semaine prochaine. À bientôt, Ingrid.
Merci, à bientôt.